Alors, bonjour, chers amis. Nous voici la fête des mères. Et pour célébrer la fête des mères, j'ai voulu commencer non pas avec la fête des mères, mais avec la fête des pères. Je sais que ce n'est pas juste, vous devez me pardonner, mais on a fouillé chez nous quelques cartes des fêtes des mères et des fêtes des pères. Et j'ai trouvé une carte que mes filles m'ont écrite il y a un an, à peu près. Je ne sais même pas quand c'est la fête des pères, mais Benjamin me le dira. Et voici dans cette carte ce que mes filles m'ont proposé. En fait, elles m'ont proposé, j'imagine vous ne voyez pas, voici la carte. Et ensuite, ici à l'intérieur, je vais vous parler de ceci. Okay? Mais vous ne voyez pas, j'imagine bien. Et donc, elles proposaient un poème alphabétique où elles exprimaient mes qualités en tant que père, en se servant des lettres de mon prénom. Comme peut-être vous le savez, mon prénom c'est Steve, Steven, mais on dit souvent Steve. Et donc, elles ont créé quelque chose autour des lettres S-T-E-V-E. Et j'étais content de trouver ce qu'ils ont trouvé pour moi. Donc, S, super. T, talentueux, tout à fait. E, électrique. OK, elles devaient forcer un peu les choses un peu là, parce qu'elles n'ont rien trouvé. V pour victorieux et E pour efficace. Excellent. À vous de juger, chers amis, si vous trouvez que cela représente la réalité. Mais j'espère quand même que vous entendez un peu l'ironie qu'il y avait derrière ces propos. Et j'avoue, même si j'apprécie la fête des mères, même si j'apprécie la fête des pères, j'avoue de trouver des poèmes mièvres proposés par l'école et des profs pour les mamans et pour les papas un peu trop sentimental, un peu aveugle parfois à la réalité de l'être humain. Mais bon, voilà, peut-être un jour par an, on peut se permettre de telles choses. Donc voilà, j'espère que vous en profitez aujourd'hui, chers amis. Mais qu'en est-il d'un poème alphabétique qui ne se base pas sur des projections aveugles et sentimentales, mais qui se base sur un terrain beaucoup plus ferme, beaucoup plus solide? Alors le psaume 34 est un tel poème parce que chaque verset de ce psaume commence avec un verset de l'alphabet hébraïque. Il y a 22 lettres dans cet alphabet et vous verrez ici qu'il y a 22 versets du psaume. Oui, peut-être vous lisez, vous dites, ben non, il y a 23 versets de ce psaume, ça c'est vrai, mais le premier verset dans nos Bibles en français, c'est le titre du psaume. Et en fait, juste pour tout dire, pour qu'on ne se trompe pas, apparemment, il y a une lettre en hébreu qui manque ici. Et donc, pour compenser, il y a une lettre qui est ajoutée tout à la fin. Et ça, on ne sait pas trop pourquoi ils ont voulu faire comme ça. Ce psaume 34 se divise principalement en deux parties, versets 2 à 11 et ensuite versets 12 à 23. Chaque partie, vers la fin de la partie, nous appelle à voir ce que c'est le Seigneur qui offre un terrain solide pour notre foi. Verset 9, à la fin, heureux l'homme qui trouve en lui, dans le Seigneur, un abri. Et verset 23, aucun de ceux qui trouvent en lui, le Seigneur, un abri ne sera en tort. Donc le psaume nous pousse à trouver en lui, en le Seigneur, cet abri. Cela répète ce que le psaume 2, si vous le connaissez, nous avait déjà annoncé. Béni soient ceux qui trouvent un abri, disait le psaume 2, dans le Fils, loin de Dieu, celui désigné roi par Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que oui, ce refuge est possible pour nous encore aujourd'hui. Non pas en essayant de nous cacher de Dieu, celui devant qui nous devons rendre nos comptes. Pour cela, on pense peut-être à un prof dans une école qui se promène dans les couloirs pour trouver la source du bruit qui le dérangeait pendant son cours. Et la réaction normale des élèves qui ont produit ce bruit, c'est de fuir l'endroit où ils sont, au plus vite pour que le prof ne leur donne pas une retenue. Ça, c'est un peu la réaction normale. On fuit la source de de celui devant qui nous devons rendre nos comptes. Mais devant le Dieu qui sait tout, qui voit absolument tout, une telle démarche ne marche pas, parce qu'il nous voit quoi qu'il en soit. Mais ce Dieu pourvoit un moyen lui-même où nous pouvons trouver refuge. C'est ça la joie de notre foi, chers amis. C'est comme si le prof lui-même nous trouve caché quelque part. Il chuchote dans la pièce où nous sommes. C'est par ici le refuge, les amis. N'ayez pas peur, je l'ai préparé pour vous. Venez voir, c'est OK. Et on se tournera en tant qu'élève à ce moment-là, l'un envers l'autre, en disant, ben, est-ce pour du vrai qu'il m'offre cela? Et la réponse est oui. Oui, ça c'est la foi chrétienne. Verset 9, David nous exhorte à goûter et voyez combien le Seigneur est bon. Non pas combien le Seigneur doit être respecté, ça oui, mais d'abord ici, combien le Seigneur est bon. On peut trouver un refuge en lui. Et cela nous mène donc à nos deux points principaux ce matin de ce psaume. D'abord, il y a une invitation à se réjouir avec David. Et ensuite, il y a une invitation d'apprendre avec David. Donc, la première partie du psaume, versets 2 à 11, c'est une invitation de rejoindre David dans sa joie. Donc, réjouissez-vous avec moi, dit-il. Réjouissez-vous avec moi. D'abord, c'est lui, David, qui s'est réjoui. Vous voyez, verset 2, « Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sera constamment dans ma bouche. » Il bénit le Seigneur. Verset 3, « Il met sa fierté dans le Seigneur. » Ensuite, il invite d'autres à le rejoindre. Les pauvres entendent, ils se réjouissent. Verset 4, « Magnifiez le Seigneur avec moi. Exaltons ensemble son nom. » Alors là, nous avons tout un tas de verbes, bénir, glorifier, magnifier, qui touchent un peu les limites de notre capacité de pouvoir exprimer à quel point Dieu est digne de notre louange. Mais pour quelle raison ce Dieu, le Seigneur, il est digne de notre louange? Alors, les versets qui suivent nous fournissent deux raisons. Donc d'abord, car le Seigneur nous délivre du danger. Car le Seigneur nous délivre du danger. C'était bien cela l'expérience de David, verset 5. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. De toutes mes frayeurs, il m'a délivré. Verset 7. Quand un pauvre crie, le Seigneur entend et il le sauve de toutes ses détresses. Le Seigneur, donc, est bel et bien dans le métier qu'on nommerait aujourd'hui, qu'on mettant en première ligne. Il sauve, il délivre. D'ailleurs, ici, il le faisait, nous dit ce texte, à travers son ange. Verset 8, le messager, l'ange du Seigneur, dresse son camp autour de ceux qui le craignent. On ne sait pas trop comment il l'a fait dans les circonstances de David, mais cette référence à l'ange nous fait penser à l'ange du Seigneur qui parlait à Abraham. Peut-être vous vous souvenez de ça au moment où Abraham allait sacrifier son fils Isaac. Peut-être ça vous fait penser à l'ange du Seigneur qui se tenait sur le chemin du prophète païen Balaam en Nombre, chapitre 22, où l'ange bloquait le chemin de Balaam pour empêcher sa mission d'aller maudire le peuple de Dieu. Plusieurs moments dans l'Ancien Testament, nous entendons parler de l'ange, du messager du Seigneur. Le Seigneur intervient à travers son messager. Le messager est un messager donc divin. Et je ne pense pas qu'il s'agit des apparences de Jésus avant son incarnation, comme si le Fils de Dieu s'est manifesté lui-même ici. Mais je pense que ces apparences nous préparent pour la venue de Jésus. Le messager divin, Jésus, par excellence. Parce que Jésus, nous le savons, il est venu pour délivrer, pour libérer, pour sauver, pour protéger son peuple. Et lui, il s'est mis en danger lui-même pour ce faire. Oui, Jésus est crucifié pour prendre sur lui la punition qui devait plutôt tomber sur d'autres, sur nous, des pécheurs. Peut-être pendant le mois de mars, vous avez entendu parler du prêtre italien qui s'appelle Giuseppe Bardelli. Alors, excusez-moi, Emmanuel, Samuel et d'autres pour la prononciation. Mais ce monsieur, cet exemple de ce prêtre m'a beaucoup frappé. Âgé de 72 ans, il était atteint d'une forme grave de cette maladie coronavirus. Avant de perdre conscience et plutôt que prolonger inutilement sa vie, il a préféré se sacrifier en renonçant à son respirateur artificiel pour céder ce respirateur à un autre patient plus jeune et donc susceptible de survivre. C'est un exemple émouvant de sacrifice, n'est-ce pas? Un petit indice, si vous voulez, à comment Jésus nous délivre, nous donne du refuge. Car Jésus, de son propre gré, innocent et en bonne santé, lui, spirituel, rend sa vie pour nous procurer une vie avec Dieu qui commence dès le moment où nous prenons refuge en lui. Et cela continue pour l'éternité, cette vie qu'il nous donne. Toute la punition qui devait tomber sur nous est tombée plutôt sur lui. Le verset 6 de notre psaume continue en réfléchissant à cette joie que nous avons d'avoir un Seigneur qui délivre. Ceux qui regardent vers lui sont radieux et leur visage n'est pas à rougir. Ce mot est employé en Ésaïe, radieux, en Ésaïe 60, verset 5. Et l'image là, dans ce texte, c'est très à propos, je pense, pour nous aujourd'hui, car il s'agit, au chapitre 60 du prophète Ésaïe, d'une image d'un rassemblement familial. Dit le texte, « Tes fils arrivent de loin, tes filles, tu les prennes sur tes genoux. Lorsque tu le verras, tu seras radieuse, ton cœur bondira. » Il sera au large. Mais on peut imaginer cela, peut-être cet après-midi, pour la première fois depuis 8-9 semaines, vous pouvez enfin voir quelques membres de votre famille. Les grands-parents, peut-être, ils ne peuvent pas encore prendre un enfant dans leurs bras, ça oui. Mais tout de même, on suppose que ce serait un moment joyeux. J'espère que ce serait le cas si vous accueillez aujourd'hui quelques personnes. Prendre refuge dans le Dieu qui nous délivre de Satan, du péché, de la mort même, ben cela nous rend, nous dit David ici dans le psaume 34, radieux, joyeux. Mais deuxièmement, le Seigneur nous apaise de nos frayeurs. Deuxième raison pour se réjouir avec David, le Seigneur nous apaise de nos frayeurs. Verset 5, il avait dit « Toutes mes frayeurs, il m'a délivré. » Certes, dans le cas de David, il y avait des frayeurs bien fondées. Il était pourchassé par ses ennemis. Il devait trouver du refuge. Mais souvent, la peur joue aussi sur nos émotions, n'est-ce pas? Face à la peur, nous pouvons perdre le sens de proportion de ce qui nous arrive. Nous sommes vite découragés et nous râlons, parfois comme si tout le monde est contre moi dans la difficulté que nous devons vivre. Je pense que c'est un danger pour nous tous pendant cette période où nous portons, oui, maintenant presque partout, des masques. Cela nous encourage, je pense, d'éviter les uns les autres, de soupçonner le danger qu'il y a autour de moi. Mais ceux qui connaissent le Seigneur peuvent également être délivrés de la peur, de la frayeur, dans le sens que cette frayeur ne doit plus nous dominer comme cela dominait auparavant. Au lieu de craindre nos circonstances, nous avons appris d'abord ce que c'est la crainte du Seigneur. Le verset 10 dit « Craignez le Seigneur, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Les jeunes lions, verset 11, face à des jeunes lions, nous aurons tous tendance à avoir peur, j'imagine. Même ces jeunes lions peuvent souffrir de la misère et de la faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront d'aucun bien. Ce n'est pas donc la peur qui n'existe plus, mais c'est qu'elle trouve sa juste place chez le croyant. Car nous accordons une plus grande place à la crainte de l'Éternel. Cela relativise notre crainte de toute autre chose dans la vie. Quelle joie donc de connaître que le Seigneur apaise nos frayeurs. Réjouissez-vous, dit David, avec moi, peu importe ce que nous vivons. Et peut-être vous vous dites, bon, attends, c'était possible pour eux, mais est-ce que pour du vrai, c'est possible pour nous aujourd'hui? Ben, moi, je pense à l'exemple dans le Nouveau Testament de l'apôtre Paul et Silas en Actes chapitre 16, en prison pour la foi. Après avoir été roués de coups, nous dit le texte, ils les jetèrent en prison, où ils leur ont mis des entraves de bois aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et quoi? Pleuraient, priaient et chantaient les louanges de Dieu. C'est frappant, n'est-ce pas? Peu importe la difficulté, la crainte, ils arrivent à se réjouir de leurs circonstances. Je relisais cet article une semaine sur Guy Debray. D'ailleurs, je pense que nous avons mis cet article plus bas dans la page pour que vous puissiez découvrir ça plus tard pour vous-même. Mais Guy Debray, c'était l'un des premiers protestants théologiens belges lors de l'époque de la Réforme, dans le 16e siècle. Il était un Mantois, né à Mans, pasteur, théologien wallon qui a étudié avec Calvin à Genève. Il était responsable pour une confession protestante réformée qui s'appelle la Confessio Belgica de 1561. Et il est mort en martyr à Valenciennes, âgé de 45 ans. Et voici, d'après le témoignage de l'un de ses co-détenus, ce qu'il disait lorsqu'ils l'ont pris le matin vers sa pendaison. Voici ce qu'il a dit. « Mes frères, je suis aujourd'hui condamné à la mort pour la doctrine du Fils de Dieu. Loué en soit-il, j'en suis fort heureux. » Remarquable que quelqu'un pouvait dire une telle chose. Oui, si nous ne savons pas ce que c'est le verset 9 de notre texte. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Mais si nous avons goûté, si nous avons vu à quel point le Seigneur est bon, alors la crainte du Seigneur permet que d'autres craintes soient relativisées, apaisées. Cela a donc été écrit pour que nous rejoignions David dans sa louange, car nous avons pris refuge en Dieu. J'espère que c'est le cas, chers amis, pour vous. De manière réfléchie, nous avons pris ce refuge en Dieu et en vue de la délivrance qu'il a effectuée pour nous en Jésus-Christ. Ça, donc, c'est la première partie du psaume. La deuxième partie du psaume, c'est une invitation d'apprendre de David. « Apprenez de moi », c'est ça ce qu'il nous dit. Verset 12, « Venez, mes fils, écoutez-moi. » Je vous apprendrai la crainte du Seigneur. Car oui, ceux qui craignent le Seigneur doivent continuer à grandir dans leur connaissance du Seigneur. Et les versets qui suivent exposent de façon précise et assez brève ce que la crainte du Seigneur doit comprendre dans nos vies. Car le chemin pour ceux qui craignent le Seigneur, les justes, ici, dans ce texte, est un chemin qui demande de la persévérance. Vous voyez ça au verset 20. « Nombreux sont les malheurs pour le juste. » Ce n'est pas juste un long fleuve tranquille, la vie chrétienne. Non, il y a des difficultés. Que devons-nous donc apprendre lors de ce chemin que nous devons entreprendre avec le Seigneur? D'abord, nous apprenons ce que c'est la bonne vie. Ce que c'est la bonne vie, c'est ça la question du verset 13. Quel est l'homme qui prend plaisir à la vie, qui aime les jours pour voir le bonheur? Voyez, c'est la question, c'est qu'est-ce que la bonne vie? Et comment est-ce que normalement nous allons répondre à cette question-là? Tant pis pour ce que le Dieu créateur me dit par rapport à ce que je dois faire dans la vie. Trouver le vrai moi, peu importe d'autres contraintes que d'autres veulent imposer sur moi. Est-ce que c'est ça le chemin du bonheur? Non. David nous conseille ici comme un père conseille à un fils. Verset 14. Préserve ta langue du mal. Tes lèvres des paroles trompeuses. Écarte-toi de ce qui est mauvais. Fais ce qui est bon. Recherche la paix. Poursuis-la. Le croyant doit apprendre cela. Car à tout moment, nous sommes tentés de se comporter autrement, chers amis. C'est difficile de ne pas faire comme les autres font autour de nous. À ne pas perdre le contrôle de notre langue. À ne pas vouloir avancer dans ce monde par des petits mensonges dans ce que nous disons, à nous écarter du mal, au lieu de nous approcher du mal, à rechercher la paix, à poursuivre la paix, plutôt que d'être quelqu'un qui blesse les autres, qui insiste toujours sur ses propres droits à lui, qui ne casse pas les autres lorsque les autres disent quelque chose qui ne me plaît pas. Ces versets dans le psaume 34 ici sont cités, Benjamin l'avait dit tantôt, dans le Nouveau Testament à plusieurs reprises, notamment dans 1 Pierre chapitre 3. Et voici ce que dit juste les versets qui précèdent la citation dans 1 Pierre chapitre 3. « Soyez plein d'amour fraternel, dit l'apôtre Pierre, de compassion, de bienveillance. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni insulte pour l'insulte. Bénissez. Au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. » Et puis pour démontrer ses propos ici, il cite le psaume 34. Ben, c'est une chose de lire cela, n'est-ce pas? De cocher peut-être la tête chez vous, là où vous êtes, en disant oui, oui. Mais c'est une autre chose à vivre, n'est-ce pas? Mais ce psaume nous pousse à connaître ces vérités dans notre propre expérience, d'apprendre ces choses. Paul réclame, lui, l'apôtre Paul réclame ces versets lorsqu'il s'adresse à Timothée, un ouvrier pour le Seigneur. « Fuis les passions de la jeunesse, dit-il, recherche la justice, la foi, l'amour, la paix. » Oui, il évoque aussi le psaume 34. Recherchez ces qualités. Recherchez pas simplement la piété, mais aussi rechercher la paix. Est-ce que nous faisons cela? Est-ce que nous faisons un effort chez nous pendant le confinement de chercher la paix avec les autres? Est-ce que nous pouvons dire que le contrôle de soi, notre attitude paisible, notre désir non pas de nous défendre, mais de comprendre, de pardonner, de chercher activement le bien de l'autre, nous caractérise pendant ces semaines du confinement? C'est ça, nous dit David ici, la bonne vie. Ça nous rappelle de ce que Jésus avait dit lui-même, n'est-ce pas, dans les Béatitudes. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. La douceur, ce n'est pas optionnel pour le croyant. Oh, c'est pour certains qui sont comme ça, mais ce n'est pas pour moi. Non, c'est pour nous tous. Ça fait partie du fruit de l'esprit. Heureux ceux qui sont compatissants, ils obtiendront compassion. Alors soyons, chers amis, compatissants, soyons doux, soyons ceux qui sont paisibles par rapport aux autres. Mais la deuxième chose que David veut nous apprendre, c'est ce que c'est la vie privilégiée. Ça, nous le voyons dans les versets 16 jusqu'à la fin. Ce que c'est une vie privilégiée, privilégiée, privilégiée. Voilà! Vous voyez combien je lutte avec ça. Pourquoi on en parle? Parce que dans ces versets, il y a essentiellement deux contrastes entre les justes et les méchants, à deux reprises. Et pour remettre en relief les privilèges des justes, et ainsi d'encourager les justes à rester sur cette voie des justes, et aussi pour avertir les méchants d'abandonner leur voie. Verset 16, les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur appel au secours. Verset 17, le Seigneur se tourne contre ceux qui font du mal. Voilà le contraste. Pour retrancher de la terre leur souvenir. Donc, conclusion de ce premier contraste, le Seigneur écoute ceux qui viennent à lui dans la dépendance et dans la reconnaissance. Verset 18, quand il crie, le Seigneur entend et il les délivre de toute la détresse. Pourquoi? Parce que verset 19, le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Rappelons-nous de nouveau que Jésus disait « Heureux sont les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Avoir le cœur brisé, reconnaître notre faiblesse, avoir soif de la justice, lamenter notre condition humaine pécheresse, ce sont des signes très positifs d'une foi authentique. Le Seigneur est proche de telle personne. Ce verset est super encourageant, chers amis. Je me souviens d'un moment où j'étais de service à un camp chrétien, il y a quelques années maintenant. Et je parlais avec un autre animateur qui était là aussi pour servir les jeunes, qui lui luttait, non pas avec un péché flagrant qui le disqualifiait d'un rôle public, non, mais avec une dépression en quelque sorte, liée un peu à ses circonstances. Il cherchait le Seigneur, mais il ne ressentait pas la joie à ce moment-là dans le Seigneur. Il venait me voir pour me dire qu'il devait démissionner du camp. Il ne pouvait plus parce qu'il voyait le danger d'être hypocrite dans sa foi par rapport aux jeunes qu'il servait. Ça pesait sur lui. Et je me souviens de lui avoir parlé et de lui avoir dit qu'au contraire, un tel sentiment par rapport à lui-même, le qualifier pour servir le Seigneur. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Donc, nous ne devons pas, bien entendu, servir tout en maintenant un grand péché public qui nous disqualifie de pouvoir servir le Seigneur. Mais ici, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de quelqu'un qui lutte avec ce qu'il est, qui aimerait continuer à progresser, alors quel encouragement, le Seigneur est proche de ceux qui ont un cœur brisé. Si vous êtes plus inquiet qu'avant, plus méfiant qu'avant le confinement pour le moment, plus malheureux qu'avant le confinement, et peut-être c'est le cas, maintenant 8-9 semaines, ça commence à être très très lourd pour certains d'entre nous. Alors, j'aimerais vous encourager de profiter de ces émotions pour vous rendre humblement vers celui qui peut vous relever, le Seigneur Jésus-Christ. Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Mais quel est le deuxième contraste? Le deuxième contraste, verset 20, « Nombreux sont les malheurs du juste, mais de tous le Seigneur le délivre. Il garde chacun de ses os. Aucun d'eux ne sera brisé, mais verset 22, le malheur fait mourir le méchant et les ennemis du juste devront réparer leur tort. Le juste, donc, connaît la protection du Seigneur, mais le méchant, dans ce texte, connaît la mort. La protection, non pas à la place de l'épreuve, mais pendant l'épreuve. C'était le cas pour l'homme le plus juste de tous les temps, le Seigneur Jésus lui-même. Il a connu pendant sa vie terrestre une vie de souffrance, mais il a connu la délivrance. Le Seigneur l'a ressuscité. Et le Nouveau Testament remarque, l'évangile de Jean notamment, que Benjamin a lu tantôt pour nous, que lors de sa mort à lui, Jésus, les soldats n'ont pas brisé ses jambes, comme était la pratique habituelle. Pourquoi? Pour que le crucifié meure plus vite. Parce qu'une fois on cassait les jambes, on ne pouvait plus pousser sur les jambes pour continuer à respirer. Mais Jésus, lui, était déjà mort au moment où les soldats allaient briser les jambes. Mais dans un sens, c'est un peu drôle, cette citation, à ce stade, n'est-ce pas, du psaume 34, car David le dit dans son contexte pour proclamer sa délivrance de la mort, justement. Mais dans la mort et la résurrection de Jésus, nous découvrons donc une signification encore plus profonde que David pouvait comprendre lorsqu'il avait écrit le psaume. Le fils de David, par excellence Jésus, traversait la mort elle-même et pourtant était protégé par le Père qui l'a relevé à la vie. Et donc de même aussi pour nous qui suivons les pas de notre Seigneur. Souffrance, oui, mais ensuite délivrance. Le Seigneur nous protège. Peut-être ponctuellement, encore aujourd'hui, nous pouvons témoigner de cela, comme c'était le cas de Paul et Silas en prison à Philippe en acte 16. Ils étaient relâchés ensuite de prison parce qu'il y avait un tremblement de terre inattendu que le Seigneur a provoqué. Mais aussi, et plus définitivement, nous pouvons connaître la protection du Seigneur lors de notre propre résurrection d'entre les morts. Nous aurons à ce moment-là une vie sans difficulté, sans même la mort. Mais malheur, verset 22, fait mourir le méchant. La justice parfaite de Dieu sera rendue sur ceux qui commettent le mal. Et le salaire du péché, nous dit le Nouveau Testament, c'est la mort. Pas simplement la mort physique, mais ce que la Bible appelle la seconde mort, la condamnation éternelle sous le jugement de Dieu. Et David nous exhorte donc à cogiter ces réalités, à apprendre de lui ce que c'est les privilèges d'être juste, d'être celui qui prend un refuge dans le Seigneur, de connaître sa délivrance, sa protection, mais aussi d'être averti d'une voix qui fait fi aux voix du Seigneur. Bon, j'aimerais terminer, chers amis, avec une autre citation de Guy Debray, ce premier Belge réformateur assez connu, mais parfois oublié même dans notre milieu. Parce que avant de mourir, avant, il est mort, pas pendaison, il a écrit une lettre à son épouse quelques jours avant sa mort. Et voici ce que Guy Debray avait écrit à sa femme. « Étant donné la situation, ma chère sœur et fidèle épouse, je te prie de trouver ta consolation dans le Seigneur au milieu de toutes tes épreuves et de t'en remettre à lui en toutes choses. » Il est le mari des veuves fidèles et le père des pauvres orphelins. Il ne te délaissera jamais, je peux t'en assurer. Conduis-toi toujours comme une femme chrétienne et fidèle, dans la crainte de Dieu, comme tu l'as toujours fait, et honore du mieux possible par ta bonne vie et tes paroles la doctrine du Fils de Dieu que ton mari a prêchée. Tu as notre fille Sarah, qui sera bientôt grande, elle pourra te tenir compagnie, t'assister dans tes épreuves et te consoler dans tes tribulations. Le Seigneur sera toujours avec toi. Salue tous nos bons amis en mon nom et demande-leur de prier Dieu pour moi, afin qu'il me donne la force, les paroles et la sagesse qui me permettront de maintenir la vérité du Fils de Dieu jusqu'à la fin, jusqu'au dernier soupir de ma vie. » Alors voici quelqu'un, chers amis, qui se réjouissait avec David, mais qui a aussi appris des leçons dont David voulait nous apprendre. Le Seigneur veut encore nous apprendre à travers sa parole aujourd'hui. Ben, je vous invite, chers amis, à prier avec moi pour terminer. Seigneur, nous te louons que nous pouvons à goûter et voir combien tu es bon dans ta parole, suprêmement dans la mort et la résurrection de ton Fils, Jésus-Christ. Et nous te prions, Seigneur, que nous puissions être ceux qui trouvent en lui un abri. Nous puissions être ceux qui se réjouissent avec ce que nous avons en toi. Et nous puissions aussi être ceux qui apprennent ce que c'est de vivre en tant que chrétiens dans ce monde. Que nous puissions être conscients de nos privilèges en tant que croyants. Que nous puissions aussi être ceux qui continuent à marcher dans tes voies. Et cela, Seigneur, pour ta seule gloire, nous te prions. Amen.